Pour vivre, le jeune homme donne des leçons de piano. C'est ainsi qu'un jour, il est appelé par la baronne von Meck, qui veut pour sa fille un professeur ayant des méthodes originales. Madame von Meck est une personne très riche, qui dépense une partie de sa fortune pour encourager les jeunes artistes. C'est notamment grâce à elle que Tchaïkovski a pu composer une partie de son œuvre. Madame von Meck voyage beaucoup et, comme elle ne peut se passer de musique, elle emmène avec elle Debussy dans les différents pays où elle séjourne. Et le musicien l'accompagne en Suisse, en Italie, en Autriche et en Russie. De chacun de ses voyages, il ramène des images sonores qui enrichissent encore davantage son inspiration. Il rencontre aussi d'illustres musiciens, Verdi à Milan, Liszt à Rome, Wagner à Venise. L'œuvre de ce dernier l'impressionne vivement.
J'étais alors wagnérien jusqu'à renier les lois les plus élémentaires de la civilisation.
Mais un peu plus tard, il s'éloigne de Wagner avec autant d'ardeur qu'il a mise à l'adorer. C'est qu'il y a dans le cœur de Debussy une sensibilité purement française, un charme voluptueux que Wagner ignore et méprise à la fois. Et comme chez Debussy, les passions s'expriment sans retenue, Madame von Meck s'étonne de le voir soudain s'opposer avec tant de violence au grand musicien allemand.
Claude, quand vous critiquez comme vous le faites Tristan et Isolde, cet opéra de Wagner qu'hier encore vous adoriez, je ne vous comprends plus.
Cette musique vous plaît, madame ?
Bien, très bien. Pour ma part, je ne regrette pas de l'avoir aimée hier et de ne plus l'aimer aujourd'hui. Il faut aimer très jeune les belles choses, comme ça on a plus de temps pour s'en dégoûter.
S'il s'éloigne de Wagner, il ne s'en plonge qu'avec plus de fièvre et de ravissement dans la lecture des poètes de cette fin du XIXe siècle. Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, entre eux et lui s'établit comme une communication mystérieuse.
Je cherche un poète qui me permettra de greffer mon rêve sur le sien, qui concevra des personnages dont l'histoire et la demeure ne seront d'aucun temps, d'aucun lieu. Un poète qui me laissera libre d'avoir plus d'art que lui et de parachever son ouvrage.
Un après-midi de 1887, au hasard d'une promenade dans Paris, Debussy découvre dans la vitrine d'un libraire un poème de Mallarmé, l'après-midi d'un faune. Aussitôt, il est séduit par le langage si personnel du poète, où les mots ont plus d'importance par leur sonorité que par leur sens. Le jonc vaste et jumeau dont sous l'azur on joue, qui détourne à soi le trouble de la joue, rêve dans un solo long que nous amusions la beauté d'alentour par des confusions. Dans cette expression poétique d'un ton si nouveau, Debussy trouve aussitôt une correspondance avec sa propre expression.
On n'écoute pas assez les mille bruits de la nature. On ne guette pas assez cette musique si variée qu'elle nous offre avec tant d'abondance. Elle nous enveloppe et nous vivons au milieu d'elle sans nous en apercevoir.
Le prélude à l'après-midi d'un faune n'est achevé qu'en 1893 et sa première audition est donnée à Paris le 22 décembre 1894. L'ouvrage remporte un tel succès qu'il est bissé par un public enthousiaste qui, pour la première fois, entend une musique qui le transporte dans la nature. À 32 ans, Debussy vient de créer un art nouveau, un langage original qui ne doit rien aux générations précédentes et qui ouvre la voie aux générations suivantes. Plus tard, essayant de définir la révolution qu'il vient d'accomplir, Debussy déclarera
« Qu'ai-je fait au juste ? Je ne le sais même plus. J'ai surtout cherché à redevenir français. Les Français oublient trop facilement ce qui leur est propre. La musique française, c'est la clarté, l'élégance. Elle veut avant tout faire plaisir. C'est un art libre, un art de plein air, un art à la mesure des éléments, du vent, de la mer, du ciel, des arbres et des eaux. Le vrai conservatoire, c'est le rythme éternel de la mer, le vent dans les feuilles et mille petits bruits qu'on écoute avec soin. »